Ça couine, ça grince. Bonjour David Mechtry.
Bonjour Jean-Luc. Rassurez-vous, ce n'est pas le violon bête. Des Alpes. Vous vous souvenez
jamais
peut-être
un chat
de
une fois que c'est pris la queue dans la porte du garage et qui faisait à peu près ce bruit-là. Non, je ne me souviens.
C'est un chat du XIIIe siècle peut-être alors parce que c'est un organistrum qu'on vient d'entendre là. Vous vous souvenez l'année passée, on était déjà à Gruyère à cet atelier de musique ancienne pour construire un instrument médiéval qui est cette sorte de vielle à roue à deux places puisque.
Pensez si je me souviens.
Par deux musiciens. Et bien donc cette année, on va passer à une lutherie plus raffinée et plus moderne, celle du XVIIe siècle, qui était une façon un peu différente de faire les violons, spéciale à la Suisse et au nord des Alpes jusqu'à la Forêt Noire. On en parlera abondamment avec nos spécialistes cette semaine, et notamment le fondateur de cet atelier de musique ancienne, qui est Philippe Motério, qui organise donc toutes les années un stage de lutherie dans la salle des gardes du château.
Étonnant donc que de découvrir ce violon baroque suisse. Du chat, on garde quand même les boyaux, j'imagine, pour faire les cordes.
Exactement, ou le mouton plutôt.
Très bien, et en tout cas, fidèle à cet esprit de musique ancienne à Gruyère, construction d'un instrument pendant quelques jours que dure ce stage et ce festival, David.
Et quelques concerts, notamment un concert qui était vraiment exceptionnel cette année, enregistré et présenté en direct par Espace 2 autour d'un ensemble qui vient d'être formé, Fluidi Montes, qui joue sur ces instruments de l'école de lutherie alémanique, comme on l'appelle officiellement.
On va se rendre compte de comment sonnent ces violons que pas grand monde connaît, franchement, dit David Mechtry. Hein.
Des secrets de fabrication et un maître luthier qui dirige un stage de plusieurs personnes qu'on va rencontrer donc à Gruyère. C'est Andreas Korczak, qui est un gantois d'origine hongroise, qui parle allemand et qu'on retrouvera surtout demain. Aujourd'hui, c'est Philippe Motério qui est le présentateur de cette semaine autour de l'école alémanique de lutherie. Philippe Motério, sur la table devant nous, donc dans cet atelier, déjà au troisième jour de la construction de cet alto, on voit un instrument complet, justement un modèle de ce que vous allez fabriquer ici.
Ça, c'est le modèle que Andreas Korczak, qui dirige l'atelier cette année, a amené. Donc il a construit lui-même en deux semaines, chez lui, le ténor de violon qu'on va construire cette année, qui est donc un violon un peu plus grand qu'un alto. De la Alemannische Schule, c'est-à-dire avec un décor très particulier et aussi une forme très originale. C'est un instrument qui est copié d'après un modèle historique qui est au musée à Genève.
De cette taille-là, il est aussi celui de Genève.
Oui, c'est un ténor de violon. Donc pour la Alemannische Schule, c'est-à-dire ces violons du nord des Alpes qui sont fabriqués dès 1650, il existe une Bible, c'est le livre de Olga Hadelmann. C'est une luthière chercheuse qui a rassemblé des documents sur les instruments de musique de façon scientifique, et qui était conservatrice au musée à Berlin, et qui la première s'est intéressée à ces instruments, qui les a recensés. Donc il en existe beaucoup en Suisse, plus d'une dizaine, tout autant en Allemagne. C'est une école de lutherie qui a fleuri au XVIIe, donc très tôt.
Avec une carte là sous les yeux, effectivement, voilà, autour de Bâle, Freiburg, Ambriscau, Zurich.
Disons, partant de Berne jusqu'à la hauteur de Freiburg et Breisgau.
Donc c'est presque encore les Alpes, mais déjà la Forêt Noire, cette région-là. Voilà.
Et c'est ce qu'on appelle la Alemannische Schule, donc l'école alémanique de construction de violons, qui a des particularités internes surtout, c'est-à-dire que c'est des violons qui ont une épine centrale conservée dans le bois de la table et du fond, qui tiennent lieu de barre. On ne collait pas une barre après avoir creusé la voûte, on la gardait en quelque sorte en creusant de chaque côté, de chaque moitié de la voûte. C'est un peu compliqué. Et donc c'est des violons qui n'ont pas d'âme, au sens où il n'y a pas de barre qui relie la table et le fond. Donc ça, c'est, je dirais, la grande différence avec la tradition italienne. Et puis là, le modèle qu'on copie est un anonyme, mais le fabricant le plus célèbre, le plus prolifique en Suisse, s'appelait Hans Krochdaler, et il travaillait à Oberbalm, tout près de Berne. Voilà.
Donc au XVIIe siècle, c'était des violons réputés qui ont... S'il y a tout un ouvrage donc, de Olga Hadelmann qui est consacré à cette école, vous pensez que c'est une lutherie de qualité?
C'est certainement une lutherie de qualité, une lutherie aussi très authentique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché le raffinement pour le raffinement, sinon dans un certain type de décor avec des couleurs qui sont naturelles, mais un décor en feuillage et en fleurs. Un petit peu comme on le faisait sur les meubles à la même époque, tout à fait. Mais sinon, c'est pas des instruments qui cherchaient le raffinement ultime des violons comme on l'a fait à Crémone. C'est des instruments qu'on jouait en consort, donc deux ténors, deux violons et peut-être une contrebasse. Chacun joue sa partie sur le principe du consort de viol et on joue pas un répertoire de soliste là-dessus. On voit donc bien un manche extrêmement court sur l'instrument où on joue sans démancher. Et c'est pas des instruments très très complexes de ce point de vue-là. Ceci dit, c'est quand même de vrais violons.
Mmh. Oui. Et c'est des instruments qui sont. On a des instruments authentiques de l'époque qui sont encore utilisés aujourd'hui ?
Non.
Seulement dans les musées, alors
Enfin, non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Par contre, il y a déjà des copies qui circulent.
Et qui sont demandées, alors, par des musiciens qui veulent justement jouer ce répertoire.
Demandées, alors. Bon, par exemple, le thème qu'on a choisi cette année pour l'atelier de musique ancienne est très clairement une idée de la Scola Cantorum, de violoniste de la Scola, qui souhaitait jouer un consort de violon de la Alemannische Schule pour jouer le répertoire que parallèlement il redécouvre dans les monastères et dans les cercles musicaux des principales villes de Suisse au XVIIe, ce qu'on jouait dans ces cercles-là à cette époque, et il souhaite le jouer sur ces violons qui n'ont certainement pas la même sonorité que les violons plus tardifs, mais cette sonorité est un peu un point d'interrogation.
Thank you.
n'avais pas de parti pris avant de faire l'instrument, il va sonner un peu.
Je dirais que c'est tout l'intérêt de l'aventure ici à Gruyère. On ne construit pas un instrument sur la demande d'un musicien. On ne construit pas un objet qui réponde à une demande préconçue de sonorité, un désir particulier ou des exigences de volume et de timbre d'attaque qui correspondraient à un standard moderne. On construit au mieux, au plus près, l'instrument tel qu'il s'est conservé, dans ses épaisseurs, dans sa forme, dans sa... Andreas Korczak est très sensible au fait d'utiliser une séquence d'opérations naturelles, donc sans machine, sans électricité, avec des outils plausibles pour l'époque, du papier de verre qui est fait avec des feuilles qu'on trouve ici dans la région. Les vernis sont faits avec la sandarac, c'est-à-dire la sève du genévrier, vraiment aussi authentique que possible, comme quelqu'un de la région de Berne en 1730 a pu le faire, qui lui n'allait pas commander de l'ébène au Mozambique. Donc il faisait une teinture de plantes, à base de plantes, pour teindre du bois de poirier, et puis on essaye de faire pareil.
Voilà. Philippe Materio dans Musique en Mémoire.
Et Andreas Korczak, c'est à lui qu'ont été commandés ces instruments par la Schola Quantorum. C'est un spécialiste particulièrement de cette école alémanique de lutherie.
Tout à fait. Donc c'est un, on peut dire encore jeune luthier allemand qui est installé en Belgique et qui travaille pour 4 ans comme chercheur en fait sur
luthier en résidence, on peut presque dire.
Oui, exactement. Non pas à Bâle, il travaille à Gand. Et ce projet qui est comme une recherche universitaire, en fait, pour 4 ans, c'est a pour thème de retrouver le plus possible d'authenticité dans la manière de construire, de reconstruire les violons de l'Allemannische Schule. Donc c'est probablement l'homme le plus pointu pour nous parler de ces instruments.
Et ce violon ténor qui est sous nos yeux, là, donc, c'est un alto un peu, ça c'est ce qui est cristallisé ensuite comme un alto. Il est fermé déjà, on ne peut pas voir l'intérieur. Hein.
Si, on peut voir des photos.
Parce que c'est intriguant cette histoire de violon sans âme. Si dans un violon italien traditionnel, si on enlève l'âme, il n'y a plus de son pratiquement, Philippe Mottet.
On perd beaucoup d'attaques, effectivement, de réponses. Donc on a l'impression, en enlevant l'âme, d'avoir un instrument un petit peu vide, qui ne répond pas.
Qui résonne moins bien.
Voilà, moins bien, qui a moins de timbre et qui sonne moins fort. Et pourtant, il y a peut-être des manières de faire des épaisseurs différentes pour que ça fonctionne et que ça marche. Et c'est ce qu'on essaye aussi de découvrir.
Alors à l'entrée de cette salle des gardes du château de Gruyère, un grand panneau avec de belles photographies, effectivement. La barre est longitudinale au lieu d'être transversale comme dans les violons habituels.
Alors voilà des belles photos du travail d'Andreas, puisqu'il a déjà construit plusieurs violons sur ce principe de construction. Alors là, on voit plusieurs détails. Le principal, c'est la table. Donc la table est voûtée, tout à fait comme un violon habituel. Elle est creusée, par contre, différemment. On creuse chaque moitié et on laisse au centre une épine.
Une sorte de rainure.
Oui, dans le bois même de la table. Elle n'est pas collée ensuite.
Que les violons, souvent, sont faits de deux pièces collées, deux moitiés collées.
C'est aussi le cas ici. Les deux pièces sont collées, mais je veux dire, on ne creuse pas complètement la table. On laisse du bois au centre, qui fait une espèce de renfort, comme une colonne vertébrale, qui tient la voûte. Et on ne va pas après coller une barre et mettre une âme pour soutenir cette voûte. Et c'est pareil pour le fond. Donc on a un renfort sur chacune des deux parties principales du violon qui fait que l'ensemble tient assez solidement. Une autre particularité de ces violons, on voit des petits taquets ici tout au long du dessin, du pourtour de l'instrument. C'est un montage sans moule, c'est-à-dire qu'on plie les bords du violon, les éclisses, d'après une forme dessinée, et puis on creuse légèrement dans le fond des rainures dans lesquelles on peut glisser ces éclisses, comme on le voit ici, et puis on construit ainsi la boîte, si on veut, qu'est le violon.
Il n'y a pas de moule, normalement les éclisses sont moulées pour avoir la bonne forme et collées.
Il y a plusieurs écoles, la principale c'est le modèle italien où on a un moule intérieur autour duquel on assemble les éclisses sur des petites pièces de bois, des tasseaux. Dans les coins également on met des tasseaux et puis là il n'y a rien de tout ça. C'est juste des petites planchettes qui tiennent un peu miraculeusement debout.
Donc il y a un peu plus de souplesse on peut dire pour les éclisses.
Oui, c'est une boîte un petit peu plus fragile. Mm-hmm. Oui. D'où des épaisseurs plus costauds sur la couronne d'éclisse.
Et aussi sur la table ou le fond, là, à vue d'œil, on dirait qu'elle est assez solide, justement. Elle est aussi fine qu'une table italienne de Crémone.
Non, on doit laisser un petit peu plus d'épaisseur. Bon, au centre, elle est un petit peu naturellement acquise, puisqu'on laisse du bois pour l'épine. Mais on ne peut pas faire une table aussi fine qu'un violon italien, puisqu'on n'emploie pas de support en dessous. Après, pour mécaniquement supporter le poids du chevalet.
Philippe Moterio, dans Musique en mémoire.
Et les essences de bois utilisées sont celles qu'on trouvait dans la région de Berne ou de la Suisse.
Ça, par contre, alors c'est tout à fait standard, c'est-à-dire un épicéa aussi beau que possible pour la table. Alors ça, pour tous les violons, et je dirais pour la plupart des instruments de résonance, c'est pareil. Et puis la caisse est faite en érable. On remarque sur les 10 instruments, la dizaine d'instruments qui sont conservés en Suisse, qu'il n'y a pas une recherche particulière de beauté d'onde ou de vernis. C'est du bois qui n'est pas forcément très beau à l'œil. C'est des choix de bois assez simples. Voilà.
Et par contre, le manche, alors qu'il n'est pas en ébène, bien sûr, qui est une essence exotique, mais qui est en bois dur tout de même.
La touche ou le cordier et les chevilles sont en général faits en bois domestique mais dur, le candidat idéal étant le prunier. C'est donc ce qu'on va utiliser pour la copie.
Le buis, c'est utilisé aussi pour ce genre de pièces ?
Pas dans cette région, non. Le bois traditionnel en ébénisterie, quand on veut quelque chose de dur, c'est vraiment le prunier qui est très beau, un beau brun rouge comme ça. On voit aussi des détails de construction qui ne sont pas si rustiques que ça, hein, finalement.
Oui, la volute est très élaborée.
Là, la volute avec
une photo d'un instrument
du centrale, hein.
Troisième quart du XVIIe siècle. Joseph Mayer serait le nom du luthier d'origine. Hein.
Oui. Et on voit un travail de sculpture assez élaboré déjà.
Et ce qui, avec les décorations qu'on voit aussi colorées à la façon de chœur et de décorations de meubles, comme vous le disiez, Philippe Mottet, fait penser que c'était tout de même des instruments destinés à des clients relativement fortunés, à des gens qui savaient utiliser les violons, non ?
J'ai plutôt l'impression inverse en voyant ce type de lutherie-là. Il y a un décor flatteur, mais sinon un assemblage où on sent un travail rapide et efficace. Donc c'est quelqu'un, ce monsieur Krauchthaler, qui a fait le modèle qu'on copie, qui est à Genève, là. C'est quelqu'un qui devait travailler vite et bien pour gagner sa vie. D'ailleurs, on voit aussi qu'il a construit des meubles, des tables, des chaises, qui devait vivre de son métier. Et voilà, il n'y a pas possibilité d'y passer beaucoup de temps. C'est pour cette raison que Andreas Korczak a un peu testé avant de venir ici un violon en 2 semaines, sans machine. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà.
Tout de même, ce qui frappe, c'est qu'il y a ces décorations qui ne figurent pas en général sur les grands violons Stradivarius.
Non, l'école de Crémone est assez particulière finalement, parce que dans le nord des Alpes, les violons allemands, et dans le nord de l'Italie jusqu'à Brescia, on retrouve quand même ce genre de décor qu'on voit aussi dans toute la lutherie de la viole, c'est-à-dire des filets entrelacés, des doubles filets, des filets qui font des entrelacs en cercle ou en ligne droite, mais très compliqués. Et puis dès que c'est possible d'ajouter des petites fleurs ou des feuilles, eh ben, ils ne se privent pas. Ce qui fait une surface de table à l'œil vraiment très décorée et très flatteuse. Ce sont des couleurs naturelles, donc ce n'est pas des teintes. On ne prend pas un bois de prunier qu'on va teinter en vert. C'est du bois qui a été attaqué par un champignon et sa couleur verte est parfaitement stable et c'est la même depuis 1600.
Oui, ça c'est l'instrument que vous me montrez aussi, attribué à Joseph Mayer. Mais oui. Il n'aura pas ses couleurs vertes, celui que vous préparez ici ou...
On ne sait pas encore.
Parce qu'il y a des modèles qui sont monochromes, si je veux dire. Avec, c'est du... Le noir est dû à la... C'est une xylogravure ou c'est une xylogravure ?
Le noir, c'est une teinte, une décoction de plantes. En fait, on peut tremper par exemple du noyer dedans et puis les bords vont bien avaler la couleur, mais le centre pas. Et ensuite, en rabotant la pièce, le filet, on a cet effet de trois couleurs. Mais il n'y a pas d'ébène là-dedans.
Si vous, je vois que vous avez déjà mis quelques-uns des filets dans les rainures. Cette
oui,
fois-ci, c'est de...
C'est la touche.
La touche de l'instrument, oui.
Non, ça, c'est un travail de patience. Hein. C'est, on se bat avec des huitièmes d'allumettes qu'il faut essayer d'insérer dans les fils de rainures. Pour moi, c'est un apprentissage, la patience.
Vous avez l'habitude de travailler le bois ?
Je connais un peu le bois, mais pas dans cette dimension-là.
Oui, c'est une marqueterie millimétrique.
Et ça, c'est des pièces qu'il fait lui-même. On les trouve dans le marché, mais comme il fait que de l'authentique, il tire des copeaux de bois, qu'il teinte en noir, qu'il colle ensuite, et après, on tire des fines bandes avec une lame de cutter, qu'on doit adapter plus ou moins à la largeur. C'est plus facile d'adapter la bande de bois que d'élargir la rainure.
Et ça tient simplement par pression dans la rainure.
Oui, après ça va être collé et raboté, ramené à la hauteur de la touche.
Avec ces motifs un peu géométriques et ces courbes typiques de cette école alémanique. Et vous êtes un travailleur du bois, donc
pas
à plus grande échelle ? Non, pas du tout.
Non, je travaille dans l'archéologie.
Ah oui.
Donc le bois, c'est pas mon quotidien. C'est
mais plutôt, voilà, le 18e siècle, alors plutôt, qui vous a tiré ici dans cette salle du château. Vous aviez...
En fait, je suis venu depuis 2 ans, je suis l'atelier et je me suis dit un jour je le ferai. J'y suis.
Très bien.
Par intérêt, c'est pas que je veuille devenir luthier ou quoi que ce soit.
Ou violoniste.
Non plus, non. J'ai pas les doigts pour ça.
Une autre école non italienne très fameuse, je crois que c'est antérieure, c'est celle de Jakob Steiner. Ça, c'est tyrolien, je crois, Philippe Mottet. C'est des violons très reconnus aujourd'hui et très demandés.
Oui, c'est une école un petit peu différente, surtout au niveau des voûtes, de la manière de fabriquer les voûtes, qui est restée beaucoup plus proche de la première lutherie italienne, c'est-à-dire de la famille des Amati. Et c'est, disons, une direction différente, plus fidèle aux instruments d'Amati que la voie qu'a suivi Stradivari ensuite. Jakob Steiner, qui travaillait, il est retourné en Allemagne, hein, il n'est pas resté en Italie, il travaillait un petit peu seul dans son genre. Je veux dire, il y a une école de lutherie du sud de l'Allemagne qui s'en est inspirée. Mais il n'a pas fait Florès autant que l'école de Stradivari, manifestement. Il n'y a pas une relation évidente entre les violons de la Alemannische Schule et les violons de Steiner. Au niveau de la construction, certainement pas. La construction interne, donc. Et finalement, pour ce qui est de la décoration, non plus. Voilà. Je trouve que c'est plus proche du style des viols de l'époque. Des violes allemandes et même anglaises, qui ont le même genre de décoration.
Dans les précédents ateliers, j'en témoigne, Philippe Mottet, vous avez pu utiliser le confort moderne, si j'ose dire,
oui.
Notamment pour avancer, puisque c'est un stage qui se fait en une semaine où l'instrument doit être réalisé. Mais vous trouvez que c'est un peu du purisme de vouloir utiliser uniquement des instruments de l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si les ciseaux sont tout à fait conformes à ce qu'on pouvait trouver.
Du purisme, je veux dire, la démarche, elle est intéressante parce que ce qu'on cherche aussi, c'est à savoir comment l'instrument a pu être construit. Donc, de ne pas utiliser de moyens modernes, ça permet aussi d'approcher une manière de travailler les voûtes, de découvrir certains procédés de collage. Mais après, si on a une commande et qu'on doit en faire 16, certainement que c'est quand même un petit peu normal d'utiliser une scie à ruban, de ne pas se forcer à strictement tout faire à la main. On n'a plus aujourd'hui non plus le temps qu'on pouvait avoir pour le travail manuel en 1650.
Bonjour. Je peux vous demander de vous présenter brièvement. Vous êtes une des stagiaires alors, de cet atelier de lutherie et vous êtes en train de limer ce qui ressemble à la volute. Ce sera la volute définitive du violon ténor que vous fabriquez ?
Oui, je pense. En fait, je n'ai pas travaillé sur ce projet toute la journée, donc je viens de commencer.
Votre nom ?
Bérénice, j'ai 19 ans. Oui. Et puis, je vais commencer les études en anglais puis histoire à Berne. Mais... En fait, je me suis inscrite à l'université, c'est juste pour cette année, parce que j'espère pouvoir entrer une école de lutherie en 2011, donc, soit à Brienz, soit à Mittenwald.
Vous avez déjà travaillé le bois ? Vous êtes une habituée des outils qui sont par ici ?
Bon, à part les travaux qu'on a fait à l'école au CEO comme ça, pas du tout. Donc là, c'est vraiment la première fois que je me plonge entièrement dans un monde qui m'est jusqu'à présent inconnu, quoi.
Et la lutherie ancienne en particulier, c'est un de vos intérêts ?
Non, pas vraiment. Mais bon, c'était une possibilité de pouvoir faire un stage et justement de découvrir un petit peu le métier de luthier. Ce qui n'est normalement pas très courant, quoi, parce que on va pas aller à l'école et puis dire « bon, moi je veux faire luthier, j'aurais trouvé un stage
». Très bien. Mittenwald, c'est aussi Brienz, c'est en Suisse. Mittenwald, c'est aussi en Suisse, cette école de lutherie ?
Alors non, c'est dans le Schwarzwald, c'est au sud de Munich, enfin c'est quasiment à la frontière avec l'Autriche, mais c'est en Allemagne.
Donc en lien très étroit avec cette école alémanique dont il est question cette semaine, puisque soit le Schwarzwald, soit le Berlin bernois était occupé oui. par ce genre de lutherie.
Oui, tout à fait.
Bonjour. Vous êtes en train de scier des creux dans cette volute donc pour enlever un morceau, c'est ça ?
Oui.
Je peux vous demander votre nom ?
Vassili.
D'accord, stagiaire alors de lutherie cette année ici à Gruyère. Vous avez l'habitude de travailler le bois ?
Ouais.
Et vous êtes intéressé par la lutherie professionnellement aussi ou vous jouez du violon ?
Ouais, je fais de l'alto. Ouais. Et ouais, j'aimerais devenir luthier en fait.
Alors là, la partie du travail que vous faites, parce qu'il y a deux volutes, mais il n'y a qu'un instrument qui sera fabriqué au final. Il y a une qui est un modèle pour s'exercer seulement.
Oui, celle-là, c'est un modèle pour s'exercer parce que lui, il a fait une faute. Ah. Parce qu'il y avait une pièce de bois et là, c'était pas la fin. Donc il a coupé.
Il a coupé trop étroit. C'est le collage des éclisses là, auquel on assiste maintenant.
Oui.
Ça avec, un peu. Avec un petit pinceau pour mettre, c'est quoi comme solution? Ça, c'est de la colle?
C'est de la colle de nerf. Ça sent bon.
Et une douzaine de serre-joints à l'ancienne pour tenir.
On va un peu vite parce qu'on doit finir le collage complet de toutes les éclisses.
Tu trouves ça bon?
Couvercle.
Il faut les coller toutes en même temps. Parce qu'elles, donc elles sont
une après l'autre, elles sont toutes séparées. On les colle une après l'autre. On voudra finir avant que ça ferme.
Oui, et puis sur le.
Pour pouvoir coller.
Ensuite, le haut, il y a une rainure pour la table ou non? C'est collé aussi?
Non, dans ce violon-là, il n'y a pas. Il n'y a pas de rainure ni de petits taquets en bois. Ouais. C'est juste collé sur le violon. C'est tout à fait symétrique avec le bas et un petit bord comme ça autour qui va être collé sur l'éclisse ici.
Elle est relativement épaisse. Hein. J'ai l'impression qu'elle est assez lourde.
C'est assez brut à l'intérieur. Celle-là aussi, il voulait la laisser brute sur l'original.
Il faut absolument coller la table en même temps que le fond pour ne pas laisser les éclisses.
Il faut que toutes les éclisses soient collées sur tout le pourtour du fond.
Et après, la table doit être faite aussi aujourd'hui.
C'est ce qu'il voudrait faire, mais je pense qu'il va faire ça
non.
Ce soir. Hein,
ben non, ça doit rester 4 heures en fait. Elle est assez.
Ça doit rester.
Ok,
d'accord.
Cette nuit.
Ouais.
Cette nuit. Et demain matin, tout sera prêt. Juste de dire, on peut mettre des secrets là. Parce que. Ah oui. Parce qu'on peut regarder.
Cette étiquette.
On peut regarder les trucs là. Mais on peut pas regarder là. On peut marquer des poèmes, des secrets. Dans 300 ans, quand ils vont ouvrir le tome, ils trouveront des.
Thank you.
Qu'est-ce qu'il restera à faire demain alors?
Peut-être enlever le
faut le collage.
Il y a
toutes les décorations à faire là-dessus.
Ah oui, une fois le violon collé.
Et en réalité, on ne peut pas. Moi, je pensais qu'on les faisait avant. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, ça dépasse. Donc il va falloir ôter tout ce qui dépasse pour faire la forme définitive symétrique. Et c'est seulement à partir de ça qu'on aura la forme définitive et qu'on pourra faire le collage. Et les décorations.
Les filets sont prêts ? Oui. Mais pour le.
Ce genre-là. Puisque ces filets, ils sont.
Il faudra creuser les rainures une fois
voilà,
l'instrument collé.
Voilà, et puis ils sont, on les trace à tant de millimètres de la périphérie. Donc il faut avoir la forme définitive en fait. Et si on doit faire tout ça.
Non, on ne doit pas faire tout ça. Ah bon.
Thank you.
Qu'est-ce qu'on écoutait, David Mestri, là?
Après les propos de Philippe Motterio, c'était un extrait d'un enregistrement réalisé par le Klingendes Museum, le musée des instruments de Berlin, sur une famille d'instruments alémaniques, précisément de cette école de violon de chalet, comme vous pourrez les appeler, dont nous parlait Philippe Motterio, qu'on entendra toute cette semaine.
Oui.
Ici, donc, une page de Georg Muffat.
Et qu'est-ce qu'on pourrait écouter d'autre, David, en écho à ce qui s'est passé dans cet atelier de musique ancienne de Gruyère?
On va passer du consort de violon au consort de viol et à un compositeur suisse du XVIe siècle, le grand Ludwig Senfel, élève d'Heinrich Isaac, à qui il rend hommage dans ce « Lust habe ich gehabt zur Musica » chanté par Charles Daniels avec l'ensemble de viol Fretwork.
Avant qu'on ne l'entende, un grand merci à vous, David Mestri. Un coup de chapeau à Marie-Claude Cudry pour sa réalisation. Isabelle Watson est l'assistante de production de cette proposition de Jean-Luc Rider. Et voici donc cette musique de Senfel.
Thank you.
L'affaire vous intéresse? Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Elle se podcast, comme on dit désormais également. Et puis vous pouvez écouter chaque émission de Musique en mémoire la nuit, dès minuit sur Espace 2, en nouvelle diffusion. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.